encore un petit effort, chers amis, comme ça nous allons pouvoir en fait conclure et essayer de terminer ces deux journées d'échange. Je commençais d'abord évidemment par vous remercier pour votre patience, pour votre persévérance et aussi pour votre présence pendant ces deux jours. Il va de soi que c'est pratiquement en fait une mission impossible de synthétiser un colloque aussi riche. Dans son introduction, Juliette avait fait un constat qui était que si beaucoup de travaux existent sur les Africains, peu de ces travaux parlaient sur l'islam ou portaient sur l'islam. Et si on regarde du côté des travaux sur l'islam, il était peu question de l'islam des Africains. Donc c'est en fait un point aveugle d'une certaine manière, un angle mort qui a fait l'objet de nos échanges durant ces deux jours. Et la réalité que recouvre cet objet portait à la fois sur les pratiques des musulmans africains et comoriens, sur les acteurs de cette religion, les institutions, ainsi que les tendances abordées selon des perspectives disciplinaires diverses, des sociologues, des anthropologues, des politistes, historiens, et cela aussi bien en Afrique, mais aussi en France métropolitaine, aux Comores et à Mayotte. Dans une moindre mesure, nous nous sommes intéressés, ou en tout cas beaucoup l'ont fait ressortir, à la question de la pensée même des érudits ou certains penseurs musulmans subsahariens qui, dans un domaine qui est par exemple celui de l'islamologie, connaissaient également une sorte en fait d'invisibilité. Donc à la fois invisibilité de la réalité sociologique, mais aussi invisibilité au niveau de l'intérêt quant aux productions des penseurs musulmans. Le questionnement de la catégorie islam africain qui a été au départ de notre recherche a été largement nourri par le colloque et par les différents intervenants. Comme nous l'avons vu et comme c'est ressorti dans ces deux journées, c'est une réalité aux frontières relativement floues et aussi mouvantes, revendiquée parfois, mise à distance à d'autres fois, appropriée par les acteurs islamiques, mais aussi réfléchie par certains chercheurs qui sont allés jusqu'à proposer une relecture de l'islam noir dans une perspective de sa requalification et de sa redéfinition comme une spécificité, une originalité qu'il faudrait essayer de promouvoir et de défendre. Abordant la question de l'islam africain et comorien en France métropolitaine, nous étions au cœur, bien entendu, des logiques de la migration. C'est quelque part réfléchir à cette réalité, mais à l'épreuve de la mobilité, à l'épreuve de la migration et aussi des processus de diasporaïsation. Donc ça suppose donc partir non pas tout simplement de la France pour aborder ces questions, mais aussi, mais plutôt partir d'un ailleurs qui est l'Afrique, qui est les Comores, qui est Mayotte, et même d'autres espaces. Ceci qui est donc dans cet univers à la fois de migration, cet univers d'exil, cet univers transnational et diasporique, pour essayer de réfléchir un peu à ce que la mobilité fait aux religieux et d'autre part aussi à ce que le religieux fait à la migration et aux migrants. Et c'est vrai que certains des intervenants, je commencerai peut-être par l'une des premières, Sophie Bava, qui, dans un effort de théorisation, nous propose des formes, qu'on pourrait dire, idéales typiques, ce qu'elle appelait des temps théologiques, qui sont à la fois des temps logiques, mais aussi des temps historiques, pas forcément chronologiques, qui peuvent se croiser, pour essayer de comprendre comment, dans le voyage, dans la mobilité, la question, en fait, du religieux accompagne les formes d'inclusion, les formes de structuration et d'entrée des migrants dans les sociétés qu'ils traversent et dans les sociétés dans lesquelles ils arrivent. Il est apparu, ou en tout cas il apparaît, que l'espace migratoire français est pour l'islam comme une sorte d'espace de continuité, espace de renouvellement, mais aussi un espace d'acculturation réciproque du fait de la position de laboratoire, pour reprendre les termes de certains, que la France en fait joue, laboratoire de rencontre et de diversité religieuse au sein de l'islam. Cela ne veut pas dire que les rencontres et les hybridations ne naissent que dans la migration. On le sait tous. Les islams, même dans les pays d'origine, sont ouverts déjà à des rencontres, et cela de plus en plus. Nous avons donc été d'emblée très attentifs dès le départ de notre recherche, ça faisait partie vraiment des axes forts, à la dimension transnationale de l'islam africain et comorien. Dimension transnationale qui a été largement révélée par nos enquêtes autant que par les interventions des conférenciers ainsi que des participants de la salle. Et cette dimension transnationale s'exprimait à la fois pour l'islam confrérique, pour l'islam non confrérique, révélant la place, le rôle, l'importance que les centres religieux situés ailleurs, dans les pays d'origine, leurs autorités, ce qu'on pourrait appeler les lieux de la baraka, continuent d'avoir comme influence sur les espaces de dispersion. En écho à ces transactions, on s'est aussi intéressé, et beaucoup d'entre vous l'ont fait ressortir, aux actions ou aux effets en tout cas de la périphérie vers les centres. D'autant plus que ces espaces périphériques, du fait que ce sont des espaces de moindre peut-être prégnance des pouvoirs locaux ou des pouvoirs religieux, constituaient parfois en fait des lieux de renouvellement, des lieux de dissidence, qui étaient bien sûr tout de suite aussi sous le coup des actions menées parfois depuis le centre pour essayer de contrecarrer ou d'essayer d'endiguer ces formes en fait de changement parfois trop brusque. On pourrait parler du mouvement emblématique Yalla Yalla, donc qui constitue une dissidence négociée d'une certaine manière et qui essaie de trouver des formes d'éclosion et de développement loin en fait du centre. Mais un aspect nouveau qui est vraiment aussi ressorti dans ce regard croisé entre la France et les pays d'origine, c'est l'effet retour des politiques de l'État français dans la gestion de l'islam. Et on est bien au-delà, en fait, d'une simple logique de contrôle par l'État laïque, logique de contrôle dont on peut considérer qu'elle est légitime de la part d'un État, comme ça a été aussi rappelé tout à l'heure par un représentant du ministère de l'Intérieur, dans ce souci de préserver la cohésion. Mais je crois qu'on est au-delà, vraiment, en fait, d'une simple logique de contrôle. Il est plutôt question d'une co-construction de l'islam, à la fois par l'État français, par les États des pays d'origine et par certains centres religieux. Et ce qui se passe entre le Maroc, l'Afrique de l'Ouest et la France constitue un bel exemple, en tout cas un exemple très illustrant de cette tentative de construction d'un islam sur une dimension ou sur une échelle régionale. Ce travail, entre différents États, montre aussi, a montré un phénomène que nous avions peut-être commencé à percevoir, qui est la spécificité des États que nous avons étudiés dans le rapport aux religieux. Si d'une certaine manière ils s'y intéressent, leur implication du côté de la diaspora est très très faible, c'est ressorti assez clairement pour les États africains sahéliens, à la différence de ce qui se passe pour les États du Maghreb. Et au-delà aussi de cette mise en retrait quant à leur intervention, il y a aussi une autre spécificité qui est l'absence de revendication d'une légitimité islamique. L'État sénégalais ou l'État malien ne revendique pas, à la différence peut-être d'autres États du monde arabo-musulman, une certaine légitimité sur le plan islamique, quand bien même le colloque et les échanges ou la collaboration avec les autorités musulmanes sont en fait extrêmement forts et poussés. L'intérêt pour cet islam africain et comorien, donc dans l'Hexagone, si je puis dire, a permis de déployer de multiples frontières. Des frontières donc nombreuses, une frontière entre ce qu'on pourrait appeler islam et arabité, voire islam et francophonie, islam et couleur, si on s'en tient à la problématique de l'ethnicité et de la race, où islam est langue en fait vernaculaire. Je m'attarderai peut-être particulièrement sur la centralité arabe de l'islam ou dans l'islam, parce que c'est une question qui a quand même traversé une bonne partie des échanges et des discussions. Et il me semblait intéressant de souligner le point de vue, par exemple, de nos amis comoriens sur la parenté et la filiation avec le monde arabe, alors que les Sahéliens, peut-être, même s'ils valorisent la langue arabe comme langue prestigieuse, ne font peut-être pas porter ce prestige sur le groupe lui-même. Et encore, c'est discutable. J'ai le souvenir dans nos échanges d'équipe de propos tenus notamment par Chernan concernant le fait de désigner certains par leur prestance ou par leur élégance en disant que c'est un arabe. Ça me rappelle aussi ce qui a été dit ce matin, quelqu'un qui est instruit, on dit qu'il est arabisé. Donc on est vraiment en fait dans une sorte de d'espace, d'univers où la référence arabe joue en fait un rôle important qui peut être modulé selon les espaces et qui renforce cette centralité de l'arabe dans le monde musulman. Et c'est une réalité qui n'a pas été que vécue par les Africains subsahariens. Certains l'ont d'ailleurs souligné dans le colloque. D'autres espaces ont été aussi, d'une certaine manière, victimes, ou en tout cas concernés par le fait, que ce soit le monde indien, le monde persan. Il y a toujours eu cette opposition qui est assez présente. Et dans la confrontation entre donc arabes et africains, ou en tout cas ceux définis comme tels, parce que c'est ainsi que les choses se passent dans la réalité, ceux qui sont définis comme arabes et ceux qui sont définis comme africains, ce qui est ressorti, c'est que l'expérience des acteurs, les témoignages de personnalités diverses traduisent des parcours qui sont en fait très très contrastés et des vécus aussi qui sont assez contrastés. Et il me semble que ça a révélé très clairement une chose, nos inégalités face aux discriminations et aux stigmatisations. Nous ne sommes pas égaux, en fait, devant le racisme ni les discriminations. Et la question, notamment pour les autorités religieuses, de la légitimité, légitimité comme ressource, est quelque chose qui se conquiert, ou quelque chose en fait qui est acquise en fait dans le temps. Cette question qui renvoyait assez vite et assez souvent à la question du racisme a aussi beaucoup occupé nos échanges. Il faut dire que peut-être pour préciser, notamment à M. Fassassi, je ne pense pas que dans les débats, les gens aient mis en lien simplement le CFCM et la question en fait du racisme, mais c'est presque plutôt des expériences ordinaires que les gens vivaient en fait en tant que musulmans et dans la cohabitation avec d'autres musulmans. On s'est, pendant nos échanges, pendant les réunions d'équipe, beaucoup posé la question de savoir, mais comment réfléchir cette question-là? Est-ce qu'il faut réfléchir en termes de dominant, dominé, de majoritaire, de minoritaire? Et quand on regarde les différentes situations qui ont été relatées, il n'y a pas de façon implacable d'un côté un groupe majoritaire versus un groupe minoritaire, un groupe de dominants versus un groupe dominé, mais il y a plutôt des situations minoritaires et des situations majoritaires dans lesquelles justement les acteurs peuvent se trouver d'un côté ou de l'autre en fait de la barrière. Et je pense que peut-être ça va nous aider nous davantage à sortir en fait de cette opposition. On a bien vu que dans certaines situations, ce sont les Africains qui étaient les majoritaires d'une certaine manière, qui dirigeaient les espaces, qui étaient en fait la référence, alors que dans d'autres c'était plus négocié, alors que dans d'autres ils étaient complètement en situation minoritaire. Donc l'idée d'un groupe a priori figé dans sa minorité ou d'un groupe figé a priori dans sa majorité n'est pas pertinente pour rendre compte de la réalité que nous observons. Et je crois qu'il faudrait plutôt parler en fait en termes de situation minoritaire, situation majoritaire, sans perdre de vue peut-être quelque chose qui est à un niveau structurant, global, où il y aurait une plus grande légitimité d'un groupe par rapport à d'autres groupes, mais qu'il faut toujours amener à une analyse de situation beaucoup plus concrète. Les situations minoritaires sont essentiellement dues à la faiblesse à la fois des lieux de culte de ces Africains et Comoriens, à leur nombre, et interrogent bien sûr sur le mode de représentation choisi dans les instances nationales. Et les rappels des témoins historiques que nous avons entendu sur les conditions de mise en œuvre de ce système de représentation montre, semble-t-il, le besoin et l'urgence de le réformer, ou en tout cas de le revoir assez profondément. Et c'est d'autant plus urgent que visiblement l'ouverture de lieux de culte est une épreuve, une véritable épreuve, et leur nombre est insuffisant. Les interfaces, ou non plutôt les interférences avec le politique local sont énormes. Et enfin, les acteurs eux-mêmes s'interrogent parfois sur la faiblesse de l'engagement des migrants africains et comoriens dans la construction des mosquées. C'est une question qui est revenue aussi dans nos enquêtes, qui a surgi aussi dans ces échanges. Et la question qu'on se pose, c'est comment expliquer ce retard par rapport à d'autres communautés, au-delà de la faiblesse démographique. Ça veut dire qu'il y a moins d'Africains, moins de Comoriens, mais est-ce suffisant pour expliquer le fait qu'ils aient moins de mosquées ou moins de structures? Il est vrai qu'on a pointé l'absence de soutien des États, des pouvoirs publics, mais quelqu'un a bien dit qu'un Africain, il donne 50 euros et il pense que ça y est, quoi. Il a de quoi, en fait, construire une mosquée. Et pourtant, tous les travaux sur la migration montrent l'investissement extrêmement fort pour construire des mosquées dans les pays d'origine. La migration Soninké a commencé ses initiatives collectives par ça. Est-ce à dire que le pays dans lequel il se trouve aujourd'hui n'est pas encore pensé de façon très très profonde comme un nouveau chez-soi où ils doivent en fait avoir une place, une représentation sur le plan religieux? Je pense que là, il y a en fait des questions qui sont à mettre en relation avec le projet migratoire, avec l'histoire migratoire de ces populations. Beaucoup d'interrogations ont tourné sur le projet associatif à mettre en œuvre. Faudrait-il développer des formes de communalisation autour de la couleur? Ben, on se retrouve entre Africains noirs et puis on fait quelque chose autour des origines comoriennes, soninké ou autres, des appartenances confrérées. Et il me semble que ça pose en fait une vraie question et une vraie réalité sociologique qui est cette grande diversité, cette extrême diversité, que finalement la catégorie africaine n'arrive pas à subsumer. C'est une construction de l'intérieur qui est certes réappropriée par certains, mais dont la traduction au niveau concret dans la réalité rencontre soit des impasses, soit arrive à trouver des formes concrètes. Et il me semble que se réclamer, comment dirais-je, être musulman, c'est certes se réclamer d'une foi, mais c'est aussi et surtout appartenir. Et les niveaux d'appartenance sont en fait divers. Peut-être même par boutade, j'aurais envie de dire qu'on appartient d'abord et puis la foi vient après. Enfin, un bon sociologue des religions, enfin, cette entrée par l'appartenance me semble extrêmement parlante. Et du coup, on comprend mieux que les gens aient envie de se retrouver en tant que Tidjane, en tant que Mouride, en tant que d'un quelque part, pour prier ensemble, pratiquer en fait des rituels qui sont partagés, et se sentir appartenir à une sorte de communauté émotionnelle. Une collectivité historique qui leur parle vraiment, qui a du sens, et pas simplement un islam dans lequel tout le monde se trouve. Non, il faut que ça passe par des médiations historiques, des médiations culturelles, des médiations concrètes, et l'islam ne se fera jamais, et la pratique ne se fera jamais, je pense, en dehors en fait de ces formes-là. Et donc la question qui est posée, c'est comment, d'une certaine manière, garantir la viabilité et la légitimité des projets associatifs religieux qui sont au plus près de la base, au plus près en fait des populations, garantir leur représentation et d'autre part, je veux dire, garantir leur représentation équitable dans une fédération ou dans la fédération africaine, la FAIAC, hein, puisque c'est de ça qu'il est question. Et c'est ce, comment dirais-je, ce double positionnement qu'on ne peut pas en fait abandonner. Au nom d'une fédération, avoir une structure religieuse qui gommerait en fait ces particularismes, mais c'est plutôt arriver à inclure ces particularités, ces particularismes dans cet espace, comment dirais-je, fédéral. Et ce que les échanges ont montré, c'est peut-être que la fédération devrait donner l'exemple et profiter de cette opportunité pour aller vers quelque chose de plus inclusif. Et quand je dis inclusif, c'est prendre en compte deux facteurs qui ont été fortement soulevés et soulignés dans dans ces deux rencontres, enfin dans ces deux journées. C'est inclure davantage les femmes. La problématique du genre a été fortement soulevée. On a eu des échanges assez vifs hier. Et aussi la problématique générationnelle, c'est-à-dire les jeunes. Je crois que ce sont ces deux lignes, ces deux aspects qui me semblent être peut-être le chemin ou la voie pour une véritable plus-value ou une véritable révolution au niveau de la Fayaka et de sa relation avec les populations africaines subsahariennes. Enfin, dernière question, c'est qu'est-ce que la Fayaka doit attendre du CFCM, de sa représentation dans les instances? Est-ce seulement pour avoir des postes? Est-ce pour résoudre les problèmes du culte musulman? Des problèmes liés à la formation? Il me semble que cette question aussi doit être posée clairement. Que faudrait-il attendre de cette structure? Pourquoi y aller et pour obtenir représenter le culte, représenter les musulmans? J'ai été très attentif aux propos de Léhi qui dit clairement qu'il est question de représenter le culte musulman. J'ai toujours été assez réticent. On a eu des échanges à un moment donné dans notre équipe sur la question de savoir si c'est pour représenter les musulmans ou représenter en fait le culte. Je crois qu'il vaut mieux que les individus soient traités comme des citoyens et que les cultes soient traités comme des cultes, mais pas qu'ils soient en fait traités comme des musulmans. Ça me semble plus proche de ce que c'est que le modèle affiché. Et je conclurai donc là pour de bon en disant tout le bonheur et le plaisir que j'ai eu à travailler avec une équipe formidable dans une ambiance aussi très agréable et très stimulante. Mais il faut aussi le dire, toute équipe a en fait un chef d'orchestre. Et en ce qui nous concerne, on a eu en fait une chef ou une cheftaine d'orchestre. Si je dois le dire, comme on est dans le religieux, je peux peut-être utiliser ces termes, mais en fait un miracle d'efficacité et de réactivité. Qui a pu tenir en fait ce rôle de lien, ce rôle en fait de rappel quand on en avait besoin. Et je tenais vraiment, au nom aussi bien sûr de toute l'équipe, à la remercier particulièrement pour cet engagement. Voilà, ben je vous remercie de votre attention.